Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Les personnes autistes représentent 1% de la population mondiale. Elles sont depuis longtemps confrontées à une série d'inégalités qui ont été exacerbées durant la pandémie de Covid-19. Leur situation sur le marché de l'emploi s'est encore aggravée. C'est la conséquence de pratiques d'embauche discriminatoires connues depuis longtemps. Ces pratiques contribuent aux situations de chômage et de sous-emploi que connaissent la plupart des adultes autistes. Pourtant, certains employeurs ont mis en place des programmes d'emploi inclusifs qui accueillent les personnes concernées par un diagnostic d'autisme. Grâce à ces programmes, un nombre croissant d'entreprises mettent désormais en place des modèles de bonnes pratiques afin de rendre le lieu de travail et les pratiques d'embauche plus inclusives, d'être socialement responsables et de pouvoir bénéficier d'un vivier de talents plus diversifié. C'est le cas de Specialist Tern, une entreprise sociale internationale créée au Danemark, dont la dernière implantation vient de s'ouvrir en France. Ses deux cofondatrices, Gabrielle Blinet et Pascal Marchal, sont nos invités de la semaine, à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Gabrielle Blinet et Pascal Marchal, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Gabrielle Blinet, pourriez-vous expliquer l'origine de Specialist Tern et quelle était l'idée de Torkilsson, son fondateur ?
Torkilsson a eu cette idée en 2004 lorsque son fils Lars a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans. Il s'est renseigné sur le sujet auprès d'experts et puis aussi dans la littérature scientifique et il s'est rendu compte que les enfants autistes et les adultes autistes avaient plus de chances que les autres d'être harcelés à l'école et puis aussi de rencontrer beaucoup de difficultés au niveau du monde du travail, qu'ils étaient beaucoup plus au chômage que les autres. Alors qu'en parallèle, ils avaient des qualités et des forces cognitives qui pouvaient réellement être utiles pour la société, que c'était des personnes qui étaient franches, honnêtes, travailleuses, qui avaient envie de s'intégrer, mais que les normes sociales actuelles pouvaient marginaliser et exclure ces personnes-là, que ce soit du monde du travail ou même de l'école. Et il a eu envie de créer une entreprise pour apporter une solution à cet enjeu global. Et donc, il a fondé Specialist Tern en 2004, qui est la première entreprise au monde à avoir envisagé l'autisme comme une différence cognitive qui pouvait enrichir la société et le monde du travail. Et la particularité de Specialist Tern, c'est d'avoir inventé une méthode qui permette de révéler, de mettre en lumière, de montrer les potentiels des personnes autistes, les compétences des personnes autistes qui souvent sont bien cachées ou en tout cas qui ne sont pas mises en valeur ou qui ne sont pas mises en lumière par des méthodes RH et des entretiens RH classiques.
Alors, il a fondé Specialist Tern au départ au Danemark et puis donc ça s'est étendu. Et il y a quelques jours, vous avez créé Specialist Tern France. Pourquoi ?
Je pense qu'on peut dire que notre pays est malheureusement connu pour être en retard sur ce sujet, que ce soit au niveau de la scolarisation des enfants autistes. Je crois qu'on est à environ 30% d'enfants autistes scolarisés en France. Si on manque de chiffres en France, c'est très difficile aujourd'hui de savoir combien il y a de personnes autistes qui ont le bac ou pas, combien il y a de personnes autistes qui sont dans un cursus universitaire. Dans tous les cas, on est sur un taux de chômage qui est dramatiquement plus élevé que les autres, sur une population qui, globalement, a de bonnes compétences, a de bonnes forces cognitives, puisque je rappelle que l'autisme en France, c'est 1% de la population, donc environ 600 000 personnes. Et sur ces 600 000 personnes, vous en avez beaucoup, 70% qui peut vivre de façon autonome et qui peut travailler en milieu ordinaire, pourvu que, pendant toute leur vie, ils aient une scolarisation, un accompagnement qui permettent de mettre en lumière ces talents. Et sur ça aussi, sur la scolarisation et sur l'accompagnement, il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays.
Alors justement, vous parlez des barrières, etc. Mais comment se fait-il que le taux de chômage soit si important pour les personnes autistes, Pascal Marchal ?
Les barrières à l'emploi, elles sont nombreuses. Déjà, la démarche elle-même de rentrer en contact avec l'entreprise ou d'envoyer un CV peut être difficile pour une personne autiste. Ensuite, répondre à une offre d'emploi, c'est très difficile pour une personne autiste parce que l'offre d'emploi va être comprise comme étant pas rigoureuse parce qu'en fait, une offre d'emploi, ça brosse souvent un nombre de qualités importantes. Donc, une personne autiste aura tendance, si elle n'a pas une seule des qualités évoquées dans l'offre d'emploi, à se dire que ça ne convient pas pour elle. Donc, elle n'enverra pas sa candidature. Il y a toute une sorte de jeu implicite qui est mis en place en fait, dans ces procédures que les personnes autistes ont du mal à comprendre. Ensuite, si elle passe ces deux étapes, l'entretien d'embauche sera une grosse difficulté pour cette personne parce que de la même façon, les questions qui vont être posées contiennent beaucoup d'implicites et beaucoup de codes sociaux que les personnes autistes maîtrisent mal. Donc, c'est comme une espèce de jeu de théâtre qu'il faut qu'ils apprennent, mais ce n'est pas forcément une chose facile. Si les entretiens étaient beaucoup plus concrets, factuels, avec des questions directes, ça serait peut-être plus simple.
Alors maintenant, concrètement, comment est-ce que vous vous organisez justement pour contacter les entreprises, pour les mettre en contact avec les personnes autistes? Comment est-ce que ça se passe très concrètement?
Déjà, notre rôle premier, quand on rencontre les entreprises, c'est de leur expliquer ce qu'est l'autisme, de les sensibiliser, de les rassurer et de leur expliquer que la neurodiversité, ça va faire du bien à leur entreprise. La neurodiversité, le fait d'apporter de la différence cognitive dans les équipes, ça va rendre leur équipe plus résiliente face au changement économique. Ça va faire qu'en diversifiant la pensée de l'équipe, potentiellement des solutions innovantes et atypiques vont être engendrées. La neurodiversité, ça va aussi ramener du sens dans l'équipe où parfois vous avez des collègues ou certains managers opérationnels qui peuvent vivre une perte de sens. Et quand on voit que son entreprise est engagée dans un projet sur la neurodiversité, ben on a envie de s'y réinvestir. Certaines entreprises ont réellement compris le potentiel que la neurodiversité pouvait leur apporter sur le plan opérationnel, la production du travail, mais aussi sur le plan humain. Donc, notre première mission, c'est de trouver des clients qui comprennent ça et qui sont prêts à investir dans la neurodiversité et à l'envisager comme un pan de leur RSE au même titre que les questions sur le genre, les questions de la mixité, les questions des quartiers prioritaires de la ville ou les questions des différences ethniques.
Alors, vous créez votre entreprise dans un contexte difficile. On ne va plus rappeler la pandémie qui a lieu en ce moment. Est-ce que la Covid-19 a exacerbé les inégalités auxquelles sont déjà confrontées les personnes autistes?
Alors, on a entendu des voix un petit peu différentes sur cet aspect. On a eu des témoignages de personnes autistes qui, quand elles sont livrées au télétravail, ont plus de difficultés à s'organiser et à trouver une routine et des repères au niveau temporel. Et je dois avouer qu'on a aussi eu des retours de personnes autistes à qui ce confinement convient mieux parce que les choses sont plus calmes, parce qu'il y a moins de bruit, parce qu'elles ont arrêté d'aller au bureau, parce que pour elles, le télétravail, parce qu'elles arrivent aussi très bien à s'organiser seules, le télétravail, c'est un confort royal. Donc, une diminution de l'anxiété, une diminution du bruit auquel elles sont confrontées quand elles doivent aller au travail le matin. Donc, on a entendu un petit peu les deux sons de cloche. Donc, c'est difficile pour nous de vous faire une réponse très univoque, unilatérale sur ce sujet.
Alors, une dernière question. On évoque de plus en plus, et vous l'avez évoqué dans l'interview, la responsabilité sociale des entreprises. Est-ce un concept aujourd'hui bien ancré dans le secteur privé?
Alors, je pense que les entreprises ont à cœur de faire de plus en plus de choses dans ce domaine pour différents motifs. Certaines, c'est vraiment très, très sincère. Pour d'autres, je pense qu'elles y viennent parce qu'elles voient que pour attirer des talents, aujourd'hui, les jeunes générations ont besoin d'avoir cet engagement de leur employeur sur des questions RSE. La RSE, bon, je ne vais pas vous apprendre ça, mais c'est vraiment un triptyque environnemental, économique et social. Beaucoup d'entreprises mettent en avant leur engagement sur la partie environnementale de la RSE. Sur la partie sociale, on peut dire qu'il y a également beaucoup de choses à faire et la neurodiversité rentre dans le pilier social de la RSE. Il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui ont inclus la neurodiversité dans leur politique RSE et on entend bien essayer de mettre notre énergie à fond pour qu'on puisse parler de la différence cognitive et que cette différence cognitive soit inclue. Dans la RSE, je pense qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui, de managers, de dirigeants dans les entreprises qui vont être ouverts à ce sujet et qui voient très bien les triples retombées positives que la neurodiversité peut apporter à l'entreprise. Pourquoi triple ? Triple, déjà pour la personne autiste, parce que nous, toutes les fois où on a constaté l'impact que pouvait avoir le travail sur la qualité de vie d'une personne autiste, c'est juste... extraordinaire. Enfin, ça n'a rien d'étonnant, pas plus d'ailleurs que pour une personne non autiste, mais la joie de pouvoir réussir, de voir qu'on est autonome, que ce soit financièrement, la joie de voir qu'on arrive à faire ou à produire de belles choses, la sensation d'être utile, d'être avec une équipe où on est fonctionnel, où on fait des choses qui apportent du sens à la société et où on voit qu'on apporte quelque chose à l'équipe, je pense que ça réjouit tout le monde. Et ça a un impact direct sur les personnes autistes qui, du coup, en tout cas, de ce que nous, on a constaté, après un ou deux ans de travail, c'est plus les mêmes personnes. C'est plus les mêmes personnes en termes d'anxiété. C'est plus les mêmes personnes en termes d'assurance, de confiance en elles, de regard qu'elles portent sur elles-mêmes. Et cette transformation-là, elle est magnifique à observer. Et les deux autres points, c'est que cette transformation, au-delà de toucher les personnes autistes, elle touche aussi les personnes qui travaillent avec elles. Combien de personnes qui ne connaissaient rien à l'autisme nous ont dit après, mon Dieu, mais je savais pas ce que c'était, mais en fait, il n'est pas handicapé. Et puis après, on me dit, bon, non, bah, en fait, je vois bien qu'il y a des différences cognitives, etc., etc., mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe, et c'est formidable, et comment j'ai pu passer à côté de ça depuis si longtemps. Et puis, la dernière retombée positive, c'est l'image, très positive pour l'entreprise, parce que aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise, que vous choisissez de dire publiquement que vous vous engagez sur la différence cognitive, je pense que c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de jeunes talents et ça peut donner envie à beaucoup de personnes de venir travailler dans votre entreprise plutôt que dans une autre.
Et bien sûr, c'est notre positif qu'on va clôturer cette discussion. Gabrielle Blinet et Pascal Marchal, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes les cofondatrices de la société Spécialisterne France qui veille à l'inclusion professionnelle des personnes autistes. Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast. Il y avait François Soubiguère, Anna-Sophia Hauert à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt. We'll